Sur DSTV, canal 167.
Voilà, monsieur Guy Mbayima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur technique de l'ICCN. On parle aujourd'hui de l'implication de la population dans la lutte contre le braconnage. La première question, c'est quoi le braconnage?
Bon, le braconnage, c'est toute activité illégale dans une aire protégée et qui vise la destruction de la faune. Donc, quand il y a des gens qui entrent dans une aire protégée...
C'est quoi une aire protégée?
Une aire protégée, c'est un territoire mis à part par l'État pour la conservation de la biodiversité en général.
Oui.
Donc, dès lors que il y a de personnes non autrement identifiées ou identifiées
armées.
Généralement, ils sont armés.
Oui.
Et quand ils pénètrent dans une aire protégée pour détruire la faune, et cet acte-là s'appelle braconnage.
Donc, pour détruire la faune, pour quel objectif?
Évidemment, ils ont beaucoup d'objectifs. Un des objectifs, c'est pour avoir des trophées. Et là, je prends l'exemple de l'éléphant.
Mmh.
Généralement, quand on braconne l'éléphant, c'est pour...
Donc, braconner, c'est tuer, quoi.
Braconner, c'est tuer.
Et abattre les animaux.
C'est abattre les animaux.
Voilà.
Simplement, on peut les traduire comme ça.
OK.
Et donc, quand ils braconnent l'éléphant, principalement, c'est pour la récolte des ivoires. Et les pointes de défense de l'éléphant.
Mmh.
Et ils récoltent les ivoires pour le vendre. Et ils braconnent aussi pour la viande. Donc, quand ils ont tué un animal,
oui.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la viande à des fins commerciales. Voilà.
Voilà, donc c'est tout simplement pour avoir de l'argent. C'est une façon pour eux de...
En tout cas, directement ou indirectement, c'est pour avoir de l'argent. Même
oui.
Pour vendre la viande, c'est pour avoir de l'argent.
Oui.
Même pour vendre les trophées, c'est aussi pour avoir de l'argent.
Alors, on parle d'une saisie dernièrement d'une cargaison d'ivoire. C'était à la réserve des faunes au Capi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Bon, ce qui s'est passé, c'est que nos gardes qui étaient en patrouille, ils ont intercepté des personnes jusque-là non autrement identifiées. Et dès qu'ils ont fait la fouille, ils ont trouvé que ces personnes avaient dans des sacs des pointes d'ivoire. Et ils ont arrêté ces personnes, ils les ont amenées à la station pour que ces personnes puissent être attendues sur PV à Bonne Duforme pour qu'on remonte la chaîne.
Oui.
Alors, il se fait
donc, il y a plusieurs implications dans ce genre d'activité.
Il y a plusieurs implications. Le braconnage a des ramifications insoupçonnées. Ces ramifications peuvent même remonter jusqu'au niveau où nous sommes avec vous.
C'est-à-dire,
on peut avoir les commanditaires qui sont ici au niveau de la capitale, qui ont de relais au niveau des provinces au niveau des territoires.
En soupçonnant certaines autorités militaires.
Bon, écoute, l'enquête est en cours. L'enquête est en cours et l'enquête nous dira si oui ou non certaines autorités militaires sont impliquées.
Oui.
Mais pour le moment, je ne saurais pas vous dire exactement qui est impliqué, mais ce que je puis vous dire avec certitude, c'est que le braconnage a beaucoup de ramifications et les gens qui le commanditent sont souvent de personnes parfois... bien placé, quoi.
Oui. Vous avez des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Nous parlons de l'implication de la population dans la lutte contre le braconnage. Alors, Guy Mbayima, vous êtes directeur technique à l'ICCN. Dites-nous, quels sont les méfaits de cette pratique du braconnage?
Bon, le méfait, c'est que, premièrement, vous êtes en train de détruire toute une richesse nationale. La faune que nous protégeons dans les aires protégées, c'est un patrimoine national.
Mmh.
Et donc, quand vous commencez à détruire la faune, vous êtes en train de détruire une partie du patrimoine national. Et la conséquence, c'est que la faune attire énormément, c'est une attraction touristique.
Mmh.
Et en tant qu'attraction touristique, c'est une ressource. C'est une source génératrice des recettes pour l'État, parce que le tourisme amène de l'argent, amène des devises au pays,
oui.
Et avec ces effets multiplicateurs, économiquement, le tourisme permet la promotion de l'industrie de transport, la promotion de l'industrie hôtelière, la promotion de l'industrie artisanale, et même la promotion de marchés locaux.
Oui.
Donc, en détruisant la faune, on est en train de détruire toute une source génératrice de recettes pour le pays.
Oui.
Ça, c'est de un. Et de l'autre côté, si on voit du point de vue écologique, la faune joue un grand rôle dans le maintien de forêt. En fait, beaucoup d'espèces sont des espèces qui se comportent comme des agronomes. Ils sont en train de disperser des graines qu'ils mangent et qu'ils expulsent par la voie anale. Et donc, ils plantent plusieurs espèces végétales de cette façon-là.
Ok, les éléphants font également ce travail-là.
Oui, exactement. Les éléphants font ce travail-là en termes techniques. On peut dire que les éléphants contribuent au maintien de la forêt, à la sylvogenèse.
Mm.
C'est-à-dire, un, les éléphants, quand ils sont en grand nombre, un troupeau, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des trouées forestières, c'est-à-dire par où ils passent, ils ouvrent un chemin, et ce chemin-là permet au soleil de atteindre des arbres qui sont de petite taille, qui ont besoin de la lumière. Et avec ce mécanisme-là, ces arbres ont accès à la lumière et peuvent donc assurer leur croissance un peu plus rapidement. Parce que, imaginez-vous, vous êtes dans une forêt, ce sont les grands arbres qui étouffent
les petits
arbres. Oui. Mais si vous avez un troupeau d'éléphants qui passe et qui crée une trouée forestière, ça permet aux petits arbres d'avoir suffisamment de la lumière et donc de croître. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième, évidemment, comme je vous ai dit, ils dessinent les graines qu'ils mangent. Et donc, ils plantent les arbres de cette façon-là.
Voilà. Alors, dites-nous, Guy Mbaïma, en quoi la population peut s'impliquer dans la lutte contre le braconnage?
Bon, d'abord parce que, la population elle-même, une partie, je ne peux pas dire toute la population, mais il y a des gens dans la communauté locale qui eux-mêmes pratiquent le braconnage. Ça, c'est de un. De deux, souvent, les braconniers viennent de loin et ils ont les guides locaux qui, eux, connaissent bien les milieux et qui leur offrent le service de les guider à tel troupeau d'éléphants ou telle espèce. Mais ils connaissent bien le milieu et donc ils sont utilisés par ceux qui viennent de loin pour faire le braconnage. Et donc, si la population se mettait du côté de l'ICSN, donc nous aurons avec nous un partenaire qui, quelque part, empêche que ceux qui viennent de loin puissent pénétrer le parc.
Ben, peut-être que les braconniers qui arrivent, j'imagine que ces braconniers sont armés, ils ont des armes, ils peuvent user des menaces à l'endroit de ceux qui sont là. Montrez-nous, sinon vous en aurez pour votre compte.
Ah oui, ces cas de figure existent. On ne peut pas les nier. Ici, je vais vous donner le cas du parc national de la Salonga, où, à certains endroits, il y a des braconniers fortement armés et qui font la loi. Et donc, qui prennent la population en otage et donc qui leur dictent leur volonté et auquel cas la population n'est que victime.
Certains peuvent venir les amadouer avec du sel, du savon,
d'autres viennent justement collaborer avec eux.
Oui.
Et pour dire, voilà, vous aurez votre quote part. Dès lors que nous, on aura abattu autant d'éléphants, vous, on peut vous donner autant d'argent ou on peut vous donner autant de pointes que vous vendrez. Donc, ce cas de figure existe. Les cas de figure où la population est prise en otage par des groupes armés braconniers, ça existe.
Alors maintenant, que doit faire la population? Il faut dénoncer.
La première des choses que la population doit faire, c'est évidemment dénoncer. Pourquoi? Parce que, somme toute, vous ne trouverez pas au niveau des villages une maison ou plusieurs maisons en matériaux durables construites par la population sur base de fouilles de braconnage. Ce sont toujours les gens qui viennent de loin, qui prélèvent la ressource au niveau de parc,
oui,
et qui vont construire ailleurs. Mais la population elle-même reste pauvre et la population est en train de perdre son patrimoine aussi. Donc c'est quelque chose que la population devra comprendre, que ces espèces endémiques et ces espèces fauniques que nous avons,
oui,
exploitées dans le cadre du tourisme, ça rapporte plus pour la population que qu'elle se fasse complice de braconnage.
Oui.
Et là, je vous donne le cas de Virunga, où nous sommes en train de promouvoir le tourisme. Sur le recette hybride du tourisme, nous rétrocédons à la population 30%.
Les recettes sont des combien?
Bon, ça, je vous donne simplement un exemple.
Oui.
Un touriste qui vient, il paye $400 pour voir pendant une heure le gorille.
$400.
$400.
Oui.
Et sur les $400, on lui paye les 30%. Vous pouvez faire le calcul. OK? Donc, par touriste, la population reçoit 30% de $400.
OK? Oui. Alors,
et donc,
oui. Alors, donc, c'est important de préserver ces animaux, surtout à cause du tourisme, qui est une source de revenus pour l'État. Alors, nous avons un auditeur en ligne qui nous appelle depuis Kisangani. Il s'appelle Prosper. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Prosper?
Oui, ma question est la suivante. Nous avons appris qu'on veut créer une aire protégée entre le triangle Lomami et le fleuve Congo du côté de Ofala. Habituellement, il y a des populations qui habitaient dans ces milieux qui étaient habituées à faire la chasse. Et je me demande en termes d'indemnité ou soit de création d'autres activités pouvant permettre à cette population de ne plus pratiquer la chasse pour permettre la protection de cette terre. Qu'est-ce que l'ICFL prévoit en termes d'indemnité et tout ça? Et l'autre activité pour empêcher la population de faire la chasse.
Ok, merci beaucoup, M. Prosper. Je vais d'abord vous situer. Bon, on veut créer une aire protégée, comme vous l'avez dit, c'est le triangle Lomami, Luala, Batwapa. Ok? Dans ce processus de création de l'aire protégée, nous impliquons d'abord la population elle-même. Et cette aire protégée qui sera créée, on veut que au milieu de l'aire protégée, on ait un parc. Et tout autour du parc, on ait des zones de chasse villageoise. Et donc, ce type d'aire protégée ne va pas interdire à la population de continuer à chasser.
Donc, pour exercer la chasse,
oui,
il faut l'exercer dans un domaine
précis. Dans un domaine précis et avec une réglementation précise, pour que la population ne puisse pas détruire la faune dont elle est si tributaire pour son alimentation. Donc, l'aire protégée TLD, comme nous l'appelons, aura la spécificité d'avoir au milieu, à son cœur, un parc national où les activités de chasse seront prohibées. Mais tout autour, il y aura une zone tampon où les activités de chasse peuvent continuer à être exercées, mais suivant une réglementation bien précise, suivant une gestion rationnelle et durable pour que la population ne puisse pas elle-même détruire la faune dont elle est tributaire pour sa vie.
Oui.
Ça, c'est de un. Et le parc pourra donc jouer le rôle d'une espèce de maternité, où les animaux vont se reproduire et les troncs pleins ira donc repeupler les zones tampons où la population pourra chasser.
Mmh.
Ça, c'est un système de gestion durable et de prélèvement durable de la faune.
Oui.
Et ça, pour votre information, du côté Kindu, parce que le parc est en cheval sur la province de Kindu et la province orientale, mais du côté Kindu, on a impliqué la population, tout le monde est d'accord, et nous avions même fait la délimitation de ces parcs avec la population, ça marche. Et maintenant, nous sommes du côté de la province orientale, où nous commençons ces processus.
Voilà. Alors, Prosper, dites-nous, comment vous faites dans votre milieu pour lutter contre le braconnage?
Bon, habituellement, ça, c'est une question qui relève de l'autorité politique. Mais néanmoins, on aimerait que l'ICCN, en tant qu'une organisation technique, puisse créer des activités qui vont empêcher à la population de faire la chasse. On ne sait pas, c'est présent ma préoccupation dans ce sens.
Oui, Prosper, par rapport à votre préoccupation, là, j'ai donné une partie de la réponse pour dire qu'en ce qui concerne l'air protégé PLD dont vous parlez, il y aura une partie dans la zone TAPO où la population va continuer
à chasser
normalement, sans problème, mais suivant une réglementation bien précise.
Oui.
Ça, c'est de un. Mais maintenant, comment nous allons faire pour intégrer la population? Je vous dis que l'ICCN, depuis bientôt 4 ans, a mis sur pied une stratégie de conservation communautaire. Cette stratégie de conservation communautaire se préoccupe justement de voir comment on peut créer des activités alternatives en faveur de la population de manière à ce qu'elle réduise sa pression sur la faune.
Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qui se fait déjà. Vous arrivez au parc.
Il y a déjà des activités comme ça.
Oui, il y a des activités comme ça.
Quel genre d'activités, par exemple?
Bon, une des activités que je peux vous donner, c'est par exemple au parc national de Virunga, où il se pose le problème de charbon de bois. Mais nous, on a utilisé la matière végétale sèche pour produire ce que nous appelons des briquettes.
Donc, qui une énergie alternative.
Oui, qui ont le même, qui a quelques différences près, a presque la même capacité calorifique que le Makala.
Voilà, on y revient le temps de la question de Ndixi qui nous appelle des Baraka. Bonjour Ndixi.
Oui, bonjour. Bonjour aussi à l'invité.
Oui, bonjour.
On vous écoute aussi.
Et comme chez nous, une grande partie de notre territoire est occupée par les zones armées. Alors, quand elles-mêmes pratiquent le braconnage, que ce soit dans l'eau ou que ce soit dans les forêts, mais notre population, quelle peut être notre contribution? Parce que nous, on est même libres et on a des armes, on dénonce, mais ça ne suffit pas. On continue toujours à braquer les animaux.
Oui, merci beaucoup. La question de groupes armés, je pense que c'est une question très préoccupante, tant pour vous que pour nous. Ce que nous, on peut vous demander, c'est de nous dire là où il se trouve, mais je pense que ça, c'est une question qui relève de la sécurité nationale. L'ICCN, en tant qu'une institution qui a une vocation bien précise, ne peut pas, à proprement parlant, adresser cette question de groupes armés. Et à chaque fois que nous avons affaire au groupe armé où nous pouvons, nous associons dans nos patrouilles les éléments de l'armée, de FARDC, pour qu'ensemble on puisse lutter contre ce phénomène. Mais en fait, ça dépasse l'ICCN, c'est au niveau gouvernemental, mais d'une façon ponctuelle, à des endroits bien précis, nous luttons contre leur présence par des patrouilles mixtes avec les forces armées congolaises.
Donc la population, la contribution de la population, c'est tout simplement la dénoncer.
Oui, effectivement, parce que comme celui qui m'a posé la question tout à l'heure, le deuxième.
Oui, Ndixi
l'a dit. La population n'a pas des armes.
C'est ça.
Et nous ne pouvons pas nous demander à la population, écoute, attaquez-vous au groupe d'armée. Tout ce qu'on peut leur dire, de nous dire là où ils sont, là où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils font. Et nous pouvons maintenant, avec la collaboration de l'armée, et tant qu'il s'agit des aires protégées, demander à l'armée de nous appuyer pour qu'ensemble on patrouille, pour qu'ensemble on essaie autant que faire se peut d'adresser cette question.
Voilà. Melga nous a écrit de Bounia, dans la province orientale. Il dit ceci: pourquoi l'ICCN ne met pas à la disposition de la population un numéro de contact gratuit pour signaler les cas de braconnage?
Ah oui. Bon, écoute, là où nous collaborons avec la population, je vais vous parler des parcs de la Garamba, des parcs de Virunga, des parcs de Kaouzi-Biega, à la RFO, la population est en contact avec nous et ils ont les numéros de nos chefs de site. Donc, ils peuvent les appeler. Mais vous appelez des Bounia. Je peux vous dire que notre directeur chef de site de la réserve des faunes à Okapi, Monsieur Jean-Jacques Mapilanga, est toujours à Bounia pour les contacts avec les autorités politico-administratives. Et toutes les autorités politico-administratives
ont les numéros de
contact de Monsieur le directeur Mapilanga. Et même vous, si vous voulez, écoute, je vais vous donner mon numéro. Vous pouvez m'appeler. Mon numéro, c'est le 081 082 92 68 68. Et ça, c'est Vodacom. Et mon numéro RTL, c'est 099
23 27
620.
Oui.
Donc, nous sommes contactables et nous vous remercions de cette initiative. Vous pouvez nous contacter n'importe quand
pour donner
l'information.
Oui.
On vous remerciera pour ça.
Voilà. Donc, on rappelle les numéros de contact de M. Guy Mbaïma, 081 082 92 68.
Oui.
Oui, notre numéro 09 099 23 27 620.
Ok,
donc ce sont là les numéros de contact. Merci beaucoup, Monsieur Guy Mbaïma. Nous rappelons que vous êtes le directeur technique à l'Institut Congolais pour la Cause. Ah, Tatima Poukoum dit qu'il y a un auditeur en ligne. On va terminer peut-être avec lui.
Oui.
Et voilà, il s'appelle Jean-Claude, il nous appelle de Bounia, à Nitouri, dans la province orientale. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Oui, rapidement votre
question. Je vous appelle. Oui, bonjour. Je vous appelle juste.
Oui.
Juste pour savoir, pour connaître les sorts des gens qui font l'exploitation minière dans les parcs et où les réserves protégées et qui ont des documents signés soit par le gouvernement ou ils font l'exploitation juste aux alentours du parc. Est-ce que c'est du braconnage ou ce n'est pas du braconnage? Et quel est le sort? Parce qu'il contribue aussi à la dégradation des parcs ou des réserves protégées. Merci.
Oh oui, c'est une activité illégale et je pense
que c'est pas du braconnage, hein.
C'est une activité illégale. Bon, de toutes les façons, il a posé une question pertinente.
Oui.
Et sur cet aspect-là, d'habitude, nous les évacuons de parcs. Et souvent, quand il y a des permis comme ça, nous allons voir les cadastres miniers avec qui nous collaborons pour leur dire, écoute, vous avez attribué des carrés miniers dans le parc et d'une façon générale, ils annulent ces carrés miniers-là. Mmh. Parce que même dans le code minier, il est dit qu'on ne peut pas attribuer les carrés miniers dans une aire protégée.
Mmh.
Ils le savent. Bon, peut-être que quand ils l'attribuent, ils n'ont pas la carte de la distribution des aires protégées. Ce sont des erreurs qui arrivent.
Mmh.
Mais il nous est déjà arrivé d'aller au cadastre minier, de parler avec eux. Et ils sont disposés
d'annuler, ils peuvent s'informer auprès de vous
et d'annuler ce qui est.
Voilà, merci à Guy Mbaïma, directeur technique à l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, ICCNA. Merci, à la prochaine.
À la prochaine, merci beaucoup.